André Lumbuima et au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi. Le 17 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'élimination de la pauvreté. En marge de cette journée qui intervient le mercredi prochain, Parole aux auditeurs s'intéresse ce lundi à la situation de la pauvreté en République démocratique du Congo. La question au cœur du débat, que proposez-vous pour que la RDC soit au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015? Pour participer au débat, composez les 081-890-6315 et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires et préoccupations. Et vous pouvez également les poster sur notre page Facebook. Titi Poutou, Pierrot et Lameji et Mimi Kindou sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka et présentée et coordonnée par J.R. Lungembo. Bienvenue à tous.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Nous avons dans ce studio Francis Loka qui est chargé de pauvreté à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au ministère du Plan. Monsieur Francis, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, aujourd'hui, est-ce c'est possible qu'on puisse être au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement d'ici 2015?
Aujourd'hui, on peut dire que la RDC ne va pas atteindre les objectifs du développement d'ici 2015. Cela ne signifie pas que rien n'est fait en RDC. Il y a des progrès significatifs qui sont faits en matière, par exemple, d'éducation. Et en matière de genre, en matière d'éducation, le taux de scolarisation, le taux net de scolarisation a sensiblement augmenté. Au niveau de la RDC, le taux se situe à 75%, à 75%. En matière de genre, il y a eu des efforts qui ont été faits et on a observé, par exemple, dans les grandes villes en milieu urbain, il y a autant de filles que des garçons dans le système scolaire. Mais en milieu rural, les déséquilibres persiste. Malgré ces avancées en matière d'éducation, toujours dans le domaine d'éducation, il y a encore des efforts que l'on doit faire dans la qualité de l'enseignement.
Alors, est-ce que, avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut avoir une idée sur les progrès réalisés quant à cet instrument qui a été adopté, l'instrument de développement pour la RDC, comme là nous parlons du DSRP1, donc le document stratégique pour la réduction de la pauvreté. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a des efforts, comme vous l'avez dit, au niveau de l'éducation, au niveau du genre, mais qu'en est-il au niveau de l'accès de l'eau, par exemple, et aussi au niveau de la dignité humaine, parce que là, c'est ce qui prime, c'est ce qui doit être d'ailleurs la priorité.
Au niveau de la santé, de manière générale, les indicateurs s'améliorent, les indicateurs de santé, que ce soit des santé infantile, que ce soit des santé maternelle. Les indicateurs s'améliorent, mais ces indicateurs ne peuvent pas, malgré l'amélioration de ces indicateurs, on ne peut pas atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. En matière d'assainissement, par exemple, l'accès à l'eau, alors là, il n'y a pas eu de progrès depuis à peu près 10 ans. Il y a eu stagnation, parce que depuis 1900, bien avant cela, depuis 1995, la proportion des ménages qui ont accès à l'eau potable tourne autour de 42%. Et la dernière enquête réalisée en 2010, l'enquête mixte 2010, cette proportion n'a pas évolué, on se situe autour de 48%. Donc, dans les autres domaines, les progrès Bon, il n'y a pas eu d'évolution significative malgré les efforts qui sont en train d'être faits. Parlant du DCRP1, bon, on ne doit pas l'oublier, c'est la mise en œuvre de ces DCRP qui a permis à ce qu'on atteigne le point d'achèvement. Mais la mise en œuvre s'est déroulée dans un contexte difficile. Il y a eu le trouble à l'est du pays, il y a eu la crise économique mondiale, il y a eu la crise alimentaire, et tout cela est venu perturber les équilibres macroéconomiques au niveau...
Oui, monsieur Lecoy, le profil de pauvreté tel que vécu, selon certains observateurs, diffère selon les milieux des résidences et varie d'une province à l'autre. Est-ce que vous confirmez ça aujourd'hui?
Oui, effectivement, le profil de pauvreté, du moins, la proportion des personnes vivant dans la pauvreté, au niveau de l'ensemble du pays, il y a à peu près 7 personnes sur 10 qui vivent dans la pauvreté. Mais au niveau de... Si on doit prendre le milieu de résidence, si on doit prendre les provinces, il y a des disparités. Ça, ce sont les chiffres de 2005.
2005-2006, oui.
Oui, ces données sont vieilles. Heureusement, il y a actuellement une opération de collecte des données pour déterminer le nouveau profil de pauvreté. Et là, on saura exactement si par rapport à 2005, la situation s'est améliorée ou si cela s'est empiré.
Voilà, avant d'accorder la parole à nos auditeurs, vous avez parlé là de 7 sur 10. Donc là, ça me pousse à dire que l'incidence de la pauvreté tourne autour de 70% selon le rapport de 2006. Et là, c'est quand même très, très élevé. Alors si on la compare à celle des autres pays, notamment celle de l'Afrique centrale, voilà, donc on peut dire que nous sommes réellement au-dessus. Donc nous avons dépassé la barre.
Oui.
La pauvreté.
Effectivement. On ne doit pas le cacher. La situation en RDC, la situation en matière de pauvreté
est très déplorable,
est préoccupante. Et le gouvernement est en train de mettre le boucher double pour relever ces défis afin que les Congolais puissent vivre dans la dignité.
081-890-6315 pour participer à cette émission. Vous avez également la possibilité de nous écrire à pa@radiocapi.net.
Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h, 15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et vous qui nous rejoignez, bienvenue. Maître Mashaka, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Voilà, Maître Mashaka, le Congo Kinshasa fait partie des pays le moins avancé, le plus pauvre de la Terre. Quelle analyse faites-vous et que proposez-vous pour que la RDC soit au rendez-vous des objectifs du millénaire sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015?
Merci beaucoup, monsieur Dieu, de m'avoir apporté la parole. Vous savez, en République démocratique du Congo, la situation est catastrophique sur les plans sociaux, monsieur le journaliste. Vous savez, il n'y a pas d'équilibre social. Il y a un très grand écart entre la vie sociale de la population. À ce moment-là, notre gouvernement, monsieur le journaliste, doit chercher à remettre l'équilibre sur tous les plans. On ne doit pas seulement s'attirer sur un domaine de la vie sociale, soi-disant les minéraux et consorts. Il faut valoriser toute activité productive des ressources, style l'étendue de la République démocratique du Congo. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a l'élevage, il y a l'emploi, monsieur le journaliste. Si vous arrivez aujourd'hui dans les campagnes, les gens cultivent, mais leur production n'ont pas de valeur, c'est parce que le gouvernement ne parvient pas à chercher les mécanismes qui peuvent permettre aux cultivateurs là de vendre leurs biens et s'en approcrer les dessins qu'ils en ont besoin. C'est ainsi que notre gouvernement doit tout faire pour remettre chaque activité en ordre, chaque activité en mouvement. Par exemple, il y avait la culture du coton. La culture du coton aujourd'hui est paralysée un peu partout. Au Maniema là-bas, on cultivait le coton. Ici, au Katanga, on cultivait le coton. Maintenant, toutes les sociétés cotonnières sont en faillite. Maintenant, qu'est-ce qui menace cette population-là qui vivait de la culture du coton doit faire pour le moment? À ce moment-là, notre gouvernement est responsable. Il doit chercher à remettre l'équilibre entre la vie sociale de la population. Puisque aujourd'hui, vous voyez mes TGR, si vous passez, même que ce soit à Lubumbashi, que ce soit là-bas à Kinshasa, dans chaque parcelle, vous avez trouvé une kiosque à devant. C'est-à-dire que les salaires qu'un Congolais touche ne parvient pas à les nourrir les deux bouts du mois. Alors, il est obligé de chercher une autre activité supplémentaire afin de faire quoi? De pallier à la situation de la
Oui, maître Machaka.
Toute activité. Et nous, peuple congolais, on ne doit pas seulement croiser les bras. Lorsque M. Kabila était venu, nous avait dit de se prendre en charge. Chacun là où il est en train de travailler, il doit chercher comment combattre la pauvreté afin d'aider notre gouvernement d'aller de l'avant.
Voilà, maître Machaka, merci. Vous reconnaissez que la situation est très catastrophique et vous liez cela au manque d'équilibre social et vous demandez au gouvernement de remettre d'abord l'équilibre, hein, c'est-à-dire de valoriser toutes les activités productives. Vous avez cité notamment la pêche, l'élevage et l'agriculture. Alors là, il faudrait quand même qu'on insiste sur une question parce que il faut retenir que le tissu économique de la RDC a été détruit depuis les pillages, de dépillages que nous avons connu. Alors, pour permettre à ce qu'aujourd'hui, ces investisseurs qui ont quitté et qui n'ont plus investi, il faudrait qu'on puisse améliorer le climat des affaires. Hein. C'est ce qui est fait actuellement, afin d'arriver à cet objectif. Merci, Maître Machaka, d'avoir appelé. Séraphin, vous êtes à Ouvira. Bonjour.
Oui, bonjour, JR, ainsi qu'à tous les auteurs de la radio Capi et à votre invité qui est au studio.
Voilà, Séraphin, est-ce que vous dites, vous partagez le point de vue de Maître Machaka qui, selon lui, la situation est très catastrophique et que proposez-vous pour que la RDC soit au rendez-vous des objectifs du millénaire sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015?
En fait, la première des choses, je voudrais d'abord réagir aux propos de votre invité parce que lorsqu'il a parlé de l'accessibilité aux soins de santé et de qualité, l'accessibilité à l'éducation, il a dit qu'il y a une nette amélioration. Moi, personnellement, je constate peut-être que lui ne vit pas en République démocratique du Congo. Peut-être ses contacts et aux données qu'il a au niveau de la ville de Kinshasa. Mais s'il essaie un peu de circuler toute la République démocratique du Congo, notamment ici chez nous à Ouvira, l'accessibilité aux soins de santé, c'est une casse-tête à la population. Et même l'accès aux soins de santé, même l'accès à l'éducation, c'est une casse-tête. Donc, personnellement, ce que je proposerais, c'est quoi? C'est la suppression d'inégalités dans la redistribution des richesses nationales. Donc, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, si vous constatez au niveau de nos gouvernements, il y a un écart exhaustif de salaire, de tension salariale. Combien touche un secrétaire général et combien touche un huissier? Alors qu'on devrait normalement respecter la tension salariale de 1 sur 10. Mais aujourd'hui, l'écart de la tension salariale, c'est au moins 1 sur 1000. Ça, c'est la première raison. Donc, il faudrait faire que les gouvernements puissent supprimer l'inégalité, là, la rétribution de richesses nationales. Et cette suppression doit se faire de deux manières. Comment? Lorsque le gouvernement capte les richesses sous forme de dépôt, une partie des richesses créées par la nation, et le gouvernement doit redistribuer ça d'une manière équitable à la population. Donc, améliorer la condition de vie du peuple congolais à travers le revenu consistant qui va leur permettre d'accéder facilement aux soins de santé et accéder facilement à l'éducation. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est quoi? Parce que si vous voyez aujourd'hui nos élus que nous avons élus, ils sont là rien que pour défendre leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour défendre l'intérêt de la population qui les a élus. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez au niveau de nos députés, de nos élus, ils ont quel revenu? Plus de 4 000 $. Mais est-ce que l'enseignant qui l'avait voté a combien? Donc, raison pour laquelle, moi je demanderai aussi aux élus du peuple, qui sont le parlementaire, qui sont les délégués du peuple, doivent aussi défendre à ceux qui ont l'amélioration des conditions de vie des peuples congolais. Parce que si vous suivez même le rapport publié par le PNUD sur l'IDH, l'Indice de développement humain, mais c'est catastrophique. Un Congolais vit par jour avec combien? Donc, il est important que l'invité qui est au niveau de votre studio, par le biais de son ministère, qu'il puisse faire un peu des investigations, des enquêtes au niveau de coins, de tous les coins du pays, dans des périphéries.
Oui, oui, c'est la fin. Oui, c'est
la réalité.
Oui, c'est la fin. Oui. S'il vous plaît, si je comprends bien, donc vous dites qu'il y a, quand même un écart entre les données, disons que possède le ministère du plan par rapport à la situation de la pauvreté et la réalité sur le terrain. Ça, c'est ce que vous dites. Et vous demandez, donc, selon vous, c'est ce qui constitue la barrière pour que demain nous puissions atteindre les objectifs du millénaire, c'est pratiquement cette inégalité autour de la tension salariale. Voilà, donc je crois que c'est cela. Hein?
Oui, tout à fait, effectivement, parce que je ferai en sorte que nos élus et nos gouvernants puissent normalement regarder l'écart entre les revenus et le revenu de la population congolaise, donc de basse classe. Donc il faudrait assez qu'on respecte la tension salariale de 1 sur 10. Donc c'est-à-dire quoi? Lorsqu'un secrétaire général touche 100 dollars, et normalement, oui, il doit toucher 10 dollars. Mais aujourd'hui, on constate un écart exhaustif. Un secrétaire général qui touche peut-être 500 dollars, mais un huissier touche 35 000 francs. Vous voyez cet écart-là. Donc le gouvernement doit réduire cette inégalité sociale.
Merci beaucoup, Séraphin. Dodé, vous êtes à Kananga. Bonjour, Dodé. Voilà, Dodé, vous avez suivi tour à tour Maître Machaka qui parle d'une situation catastrophique. Séraphin, qui est venu après, demande à ce qu'on puisse supprimer l'inégalité quant à la distribution des ressources naturelles, disons des revenus nationaux. Alors, vous partagez quel point de vue, personnellement?
Ok, merci. Nous commençons d'abord par une interrogation. Nous demandons les données du ministère du... C'est pris ici en RDC ou ce sont les données d'un pays étranger? Chez le journaliste, nous devons vous rappeler que nous avons eu la chance de faire des voyages dans le Congo profond. Nous avons vu des histoires que nous qualifions d'horribles dans ces pays. Il y a des villages où le soin de santé primaire manque, monsieur le journaliste. Et nous demandons ces données du ministère du Plan. Ça vient de quel pays? Ça vient des grandes villes de la RDC ou ça vient de notre propre pays? Et je viens de dire ceci. Pour atteindre ces objectifs du millénaire, l'État doit être le pourvoyeur des emplois. Ça, c'est de un. Et l'État doit redynamiser l'économie nationale. Il y a des secteurs vitaux dans notre pays que nous devons relancer. N'ayons pas le Dieu bondé par le minerai de notre pays. Il y a d'autres secteurs, à l'instar de l'agriculture, monsieur le journaliste. Si ce secteur-là est redynamisé, vous verrez qu'on pourra créer beaucoup d'emplois dans ces pays et on pourra pallier à beaucoup de problèmes. Il y a aussi les secteurs sanitaires. Monsieur le ministre, ça laisse à l'intérêt. Je demande à votre invité qu'il puisse mener des enquêtes dans ces domaines-là, surtout dans le Congo profond. Si vous avez la conscience humaine, monsieur le journaliste, vous...
Oui, oui, Dodé, au regard du travail qui est fait, et surtout par rapport aux documents stratégiques de réduction de la pauvreté, on sait que au nombre de programmes ou de réalisations sur terrain, on peut aujourd'hui compter, avec la réhabilitation d'ailleurs de services de l'INERA à travers les pays. Nous savons que depuis 90, en début des années 90, l'INERA ne fonctionnait plus en plein régime, mais aujourd'hui, petit à petit, commence à reprendre du poil de la bête.
Monsieur le journaliste, ce que vous dites est peut-être visible dans le centre Jourdain. Mais si vous descendez dans des villages, monsieur le journaliste, je vous dis, la situation est restée statique. Elle n'a pas évolué. Ne vous contentez pas de ce qu'on est en train de voir à la télévision dans les grandes villes. Plongez une fois dans nos villages, vous verrez, monsieur le journaliste, qu'il n'y a aucune évolution. Il y a de plus en plus de dégradations, voulais-je dire. Les écoles construites par le missionnaire blanc, si vous le voyez aujourd'hui, ne sont plus réhabilitées. Les sources d'eau, là, n'en parlons même pas. La population se contente de l'eau, des sources naturelles. Et vous savez dans quelles conditions ils prennent cette eau sur le
plan. Donc avec toutes les maladies hydriques liées à ça.
Oui, mais le choléra dans 8 sur 11 de nos provinces, c'est un exemple qui parle trop fort.
Et... Voilà, merci. Merci Dodé. À moins que vous ayez autre chose à ajouter, mais nous résumons. Vous avez proposé la redynamisation de l'économie nationale et surtout, vous avez ciblé comme secteur prioritaire le secteur de la santé et c'est celui de l'agriculture. Merci Dodé. Jadot, vous êtes à Lubero. Bonjour.
Bonjour, Jerry Lungembo. Bonjour tous les auditeurs de la radio Capti. En fait, je suis Jadot de Maseré, Kadisoussou, qui est territoire de Lubero, province du Nord-Kivu. Et la thématique du jour, elle est très importante parce qu'elle est d'actualité. Mais d'entrée de jeu, je voulais signaler que notre musée de Masereka, c'est un musée qui, sa richesse, est constituée de l'oignon, de la pomme de terre et du bleu. C'est-à-dire, pour parler de la réduction de la pauvreté, c'est le ministère de l'Agriculture qui doit penser comment réglementer cette question-là. Mais le grand problème du Congo, c'est quoi, monsieur GR? Imaginez, lorsque nous entrons dans la race du monde, nous, le grand problème, c'est la sécurité. Alors, on sait que là où il y a un minimum de sécurité, c'est dans les villes. Alors, quand les campagnes sont déjà insécurisées, il y a ce qu'on appelle exode rural. Et quand les gens sont dans les villes, ils se donnent à des activités lésées, aux activités criminelles, c'est-à-dire il faut des entreprises criminelles pour voir bon, qu'est-ce que nous voulons, comment nous voulons opérer pour avoir facilement de l'argent. Et ça dégage la tendance de ce qu'on appelle la vie facile. Alors, pour quitter cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que d'abord, toutes les intelligences de ce pays se mettent autour d'une table. Nous devons comprendre que dans l'échelle du monde entier, en quel pays ne s'est développé seulement avec le troisième secteur? Parce que je voudrais parler des secteurs de développement. On parle du secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire et le secteur quaternaire. Le secteur tertiaire, c'est dans le cadre de rendre service. Si vous voyez toute la jeunesse congolaise aujourd'hui, elle a tendance d'embrasser le secteur tertiaire. Il faut être dans l'armée, il faut être dans l'administration publique, être boumètre ou qui, il faut être médecin. Alors que ce secteur-là serait des secteurs, ça serait un secteur complémentaire du primaire et du secondaire. Et quand vous voyez l'initiative de notre État, on donne beaucoup de financement au secteur tertiaire dans le cadre de l'administration. On parle de salaire des députés, j'ai entendu les autres auditeurs en parler. Pourquoi c'est le secteur qui est le plus financé au détriment du secteur primaire et secondaire? Dans le traité de Maputo, on a dit pour arriver à répondre aux besoins actuels du monde, nous devons arriver à financer à grande partie l'agriculture. Et vous savez que l'agriculture, c'est l'activité principale au moins de toute la population congolaise, avec nos terres arables qui ont la capacité de nourrir presque l'Afrique. Et vous voyez, si on investit dans l'agriculture, et là il faut que le ministère de l'Agriculture et le ministère des travaux publics puissent s'associer pour améliorer les routes. Imaginez comme ici à Masereka, pour arriver à Butembo, il faut 2 jours, alors que c'est 50 kilomètres. De Butembo à Beni, il faut 2 jours, alors que c'est autour de 30 kilomètres, 40 kilomètres. Mais comment comprendre? Alors, les populations de Butembo se nourrissent de vivres qui viennent des territoires. Et quand il y a déjà une route bloquée, ça constitue directement un chômage. Et si vous verrez, voilà, que les jeunes gens se donnent à des activités criminelles dans l'association des groupes négatifs. C'est ça le grand problème.
Voilà. Jadot, donc si nous comprenons bien, vous plaidez pour la redynamisation du secteur tertiaire, le secteur secondaire. Il faudrait qu'on renforce un peu certaines activités de ce côté-là. Mais vous avez aussi évoqué l'aspect sécurité. Quand les campagnes agricoles sont insécurisées, ça crée de l'exode rural. Et là aussi, parfois, ça décourage et puis il n'y aura pas de développement. Merci Jadot. Cosmas, vous êtes à Kisangani. On va terminer avec vous, avec cette première série des auditeurs, avant de redonner encore la parole à notre invité. Cosmas, bonjour.
Bonjour, monsieur Gilles.
Est-ce que vous partagez les avis de vos prédécesseurs?
Bon, effectivement, je peux aussi augmenter pour ne pas partager certains points de ces avis-là. Mais moi, je commence directement. Ça, c'est un bon sujet. Hein. Et c'est un sujet qui doit toujours faire le Congo d'un bon pays. Ce n'est pas le chantage à la télévision, n'importe où. Alors, si une fois qu'on n'a pas encore connu comment est-ce qu'on peut faire, on peut se faire sortir de ce chaos, de la pauvreté, mon frère, on passera du matin au soir en train de parler d'ici et de là, et il y aura seulement une petite couche de la population qui va manger, les autres ne mangeront pas. D'abord, c'est la sécurité, selon moi. Quelle sécurité? D'abord, la sécurité sociale. Pourquoi pas que quelqu'un ne peut pas aller au boulot pendant qu'il n'a pas encore mangé depuis le matin? Et quand il va au boulot, il aura toujours tendance, soit à prendre de la corruption et tout ce que nous connaissons maintenant aujourd'hui au Congo, c'est parce que cela émane de la faute de la sécurité sociale. Pourquoi? Il faut d'abord reprendre, si on peut aussi dire de ce que l'autre disait, que non, l'agriculture, cette agriculture-là ne peut pas rester toujours traditionnelle, comme nous sommes en train de le faire ici chez nous au Congo. Parce que l'agriculture, il faut d'abord nourrir la population des outils. Les outils est probable pour effectuer l'agriculture. Ce n'est pas chaque fois qu'on amène des tracteurs dans des villes et les tracteurs ne font rien dans la ville. On ne fait pas l'agriculture en ville, mais plutôt à l'intérieur des provinces. Mais comment on le fera à l'intérieur des provinces pendant qu'il n'y a pas de route? Il y a l'enclavement total partout. Alors, il faut d'abord désenclaver les milieux ruraux et on amène à moderniser l'agriculture. Là, ça peut faire quand même bien sur le plan social. Et il y aura aussi les problèmes des travailleurs. Quand quelqu'un qui travaille du matin au soir, 30 jours, 31 jours, et il n'arrive pas à toucher même quelque chose qui peut être au minimum de nourrir sa famille, mon frère, il sera toujours de tous les mauvais comme les mauvais que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Congo. Parce que ce n'est pas de leur problème. Je vais vous dire quelque chose, M. Gilles. Si vous avez votre enfant à la maison, et chaque fois l'enfant là, dort seulement ventre creux, et le jour que vous allez oublier quelque chose dans la casserole, l'enfant vient, il tire, il mange, et vous commencez à condamner cet enfant. Non, c'est un voleur. Il n'est pas voleur. Il n'a pas été rassasié, et chaque jour vous le disiez que non, qu'il dort, mais seulement comme ça. C'est ça le problème du Congo. Donc il fallait d'abord payer les fonctionnaires, et payer en tout cas normalement les fonctionnaires. Et ce n'est pas seulement se cibler aux gens qui sont à côté des pouvoirs en place, mais plutôt payer tous celui qui fonctionne ou bien qui travaille.
Mais il faut une redistribution équitable.
Qui peut garantir sa famille.
Merci
et
beaucoup.
Il y a encore le problème
de
collaboration.
Oui.
Quand il n'y a pas collaboration entre les dirigeants et les dirigés, il y aura toujours des problèmes. Parce que tout ce que les dirigeants vont faire, ils vont croire que non, c'est bon, alors que la population à son tour est en train
ne se retrouve pas.
Et une fois qu'on tente de critiquer, c'est les coups d'épée qui vous attendent, soit au dos ou partout, et vous êtes obligé de ne pas.
Merci, Cosma, 081-890-63-15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous revenons à vous, Francis Loka. Vous êtes chargé de pauvreté à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au ministère du Plan. Vous avez suivi les uns et les autres. Hein. Ben, s'il faudrait quand même résumer, M. Machaga qui est revenu sur tous. En tout cas, ils ont reconnu que la situation est très, très catastrophique. Néanmoins, ils ont chacun proposé quelques pistes de solutions. Machaka qui a proposé la remise en service de services d'agriculture, donc valoriser toutes les activités, et Séraphin est revenu également sur la même chose, donc la suppression de l'inégalité dans la distribution des ressources, de revenus national. Dodé focalise son intervention sur la redynamisation de l'économie nationale en sautant les deux secteurs prioritaires, notamment la santé et l'agriculture. Jadot qui aussi a évoqué l'aspect sécurité qui doit être aussi l'un des leviers pour aider à c'est qu'on puisse aller vers, si pas l'élimination de la pauvreté, mais sa réduction, telle que le recommandent les objectifs du millénaire pour le développement dans son article premier. Alors, Francis Loka, que répondez-vous aux uns et aux autres?
Je commence d'abord par remercier vos auditeurs pour l'intérêt qu'ils portent à ces sujets. J'aimerais d'abord répondre par rapport au problème des statistiques. Vos auditeurs ont raison, mais je dois les informer que les statistiques que j'utilise ici, ce sont les statistiques des enquêtes nationales. Donc, à partir du moment où ces enquêtes ont été acceptées, validées, on les considère comme telles. Cela ne veut pas dire qu'en milieu rural, il y a il n'y a pas de problème et que tout se passe très bien. Je connais très bien le milieu rural congolais en matière, par exemple, de scolarisation, malgré la gratuité et l'afflux des élèves dans les écoles, les infrastructures ne sont pas au point. Le personnel enseignant est vieillissant, il y a surpopulation des classes, et j'ai même vu dans le Kasaï en milieu rural un enseignant au primaire pratiquement aveugle. Il vient quand même enseigner pour avoir son salaire. Donc il y a des choses que l'on doit améliorer. En matière de santé, si je dis qu'il y avait des progrès, en fait, ce sont par rapport aux indicateurs des OMD. Prenons par exemple la vaccination. Il y a eu des campagnes de vaccination qui ont été organisées et le taux de couverture vaccinale s'est amélioré. Là, on ne peut pas le nier. Quoique les structures de santé à l'intérieur ne sont pas régulièrement approvisionnés
en vaccins
également. Mmh. Mais par les campagnes, on a réalisé un certain nombre de progrès. Si on prend par exemple l'insuffisance pondérale, on va remarquer que le niveau de l'insuffisance pondérale a baissé. Je peux vous donner des chiffres. C'est passé en 2001, on était à 31%. En 2007, 31%, c'était ça stagné. Et en 2010, à 24% d'enfants de moins de 5 ans souffrant d'insuffisance pondérale. Bientôt, il y aura d'autres enquêtes. On va évaluer le niveau. Ça, c'était pour rassurer vos auditeurs
sur les statistiques.
Oui, sur les statistiques. Maintenant, par rapport aux préoccupations soulevées et aux solutions proposées par les auditeurs, je suis parfaitement d'accord avec eux. D'abord, la première des choses que l'on doit faire, il faut assurer la sécurité. Sans sécurité, on ne peut pas relancer l'économie. Sans sécurité, on ne peut pas améliorer l'existence des Congolais. Donc, là où il y a la sécurité, il faut la maintenir. Là où il y a des postes d'insécurité, il faut garantir la sécurité. Ça, c'est la première condition pour l'amélioration des conditions de vie. Après, ce que le gouvernement a commencé à faire, c'est l'assainissement du cadre macroéconomique. Et cela s'est traduit par des taux de croissance positifs. Mais cette croissance positive au niveau macroéconomique doit se traduire dans les vécus quotidiens.
Oui, mais parce que quand on parlait on a atteint le point d'achèvement. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on doit aller dire à une de nos mamans qui se trouve par exemple à Lubero ou à Bengamisa, il faudrait quand même qu'on l'explique. Que quand on crie à longueur de journée à la radio, à la télé, qu'on a atteint le point d'achèvement, il faudrait qu'au niveau de vécu quotidien, social, qu'on les sente aussi. Alors, aujourd'hui, par rapport au terme, par rapport à ce que les uns et les autres vivent sur le terrain, on a comme l'impression que c'est juste des textes, c'est juste des discours vides, quoi.
Oui, effectivement, la population souffre depuis longtemps, la population attend de voir les résultats des sacrifices consentis depuis des années. Mais on ne peut pas changer la situation du Congo du jour au lendemain par un coup de baguette magique. Pendant qu'on est en train de se concentrer pour essayer d'améliorer la situation du vécu quotidien du Congolais, on a des problèmes d'insécurité à l'Est. Et dans le cadre pour essayer aussi, dans l'amélioration de la situation, par exemple, on a parlé des salaires, dans l'amélioration de la situation des fonctionnaires, le gouvernement a décidé de la bancarisation des salaires. Alors, il semblerait, le gouvernement va publier les chiffres, il semblerait qu'on a récupéré une masse importante d'argent. Il est tout à fait normal d'affecter cette masse à l'augmentation des salaires des uns et des autres.
Voilà, Dadi est à Kinshasa et Jean-Pascal à Arou, Riffin à Kikwit. Dadi, bonjour.
Oui, bonjour Julien.
Voilà, Dadi, que proposez-vous pour que la RDC soit au rendez-vous des objectifs du millénaire pour le développement sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015?
Oui, l'invité principal de l'émission a déjà dit que d'ici 2015, la République démocratique du Congo ne va pas atteindre ses objectifs. Mais néanmoins, s'il faut miser après qu'il y ait après qu'on lutte contre la pauvreté dans notre pays, la première des choses à faire, c'est d'abord restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, faire en sorte qu'on puisse promouvoir la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, la corruption, mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut, lutter aussi contre les favoritismes. Pourquoi pas aussi promouvoir tous les secteurs comme les PDC ont dit, et moi j'ajoute, il faut aussi faire de telle sorte qu'on puisse garantir aux investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, un très bon cadre judiciaire et juridique, qui va leur permettre d'investir davantage. Et la République démocratique du Congo doit mobiliser plus de ressources à terme et des moyens pour pouvoir investir dans tous les secteurs.
Voilà, Dadi, merci. Donc là, vous insistez sur la restauration de l'autorité de l'État à travers les pays, qui pourrait être quand même, selon vous, donc l'idéal pour aider, tant soit peu, à réduire, ne fût-ce que la pauvreté à travers le pays. Jean-Pascal, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio Kati.
Est-ce que vous êtes de même avis que Dadi qui vient de passer tout à l'heure, qui parle de la restauration de l'autorité de l'État, ou vous prenez la même option que les autres, Jadot, Dodé, Maître Machaka, qui vous ont précédé et qui ont parlé de la redynamisation de secteurs prioritaires, donc au niveau de l'économie nationale, notamment le secteur sanitaire et le secteur d'agro-pastoral?
Mon humble avis est que le gouvernement congolais puisse procéder à la réhabilitation des routes qui permettra aux agriculteurs et les investisseurs d'acheminer leurs produits entre des consommations et des transformations. Et surtout, disons, une route praticable, et ce que, disons, la population, soit les agriculteurs, vont se donner pour produire, et quand ça n'arrive pas à la destination, c'est très difficile qu'on ait quand même un petit changement là. Et par exemple, le cas de notre territoire à Garou, les produits agricoles comme arachides, haricots et les tabacs, en grande partie, c'est exporté vers l'étranger. Et pourtant, agricoles comme arachides, on pouvait les exporter à Kinshasa ou à Kisangani, dans d'autres provinces au lieu de consommation. Vu que nous manquons des routes là praticables pour l'acheminement de ces produits agricoles à la destination, et ça fait que la population et les agriculteurs sont en train de souffrir toujours de la pauvreté. Disons, le rendement est là, mais c'est question maintenant d'exporter, atteindre les marchés, c'est devenu...
Donc, évacuation.
Nous demandons à notre gouvernement de songer d'abord à premier lieu à la réhabilitation et entretien des routes routes d'intérêt provincial et des routes de dessertes agricoles. Merci.
Voilà, merci Jean-Pascal. Donc vous mettez un accent en ajoutant un élément nouveau, donc la réhabilitation des routes de dessertes agricoles qui pourrait constituer aussi de routes très importantes pour l'évacuation de produits. Nous prenons Rifin qui est à Kikwit. Bonjour Rifin.
Bonjour JR.
Comment réagissez-vous, Rifin? Qu'est-ce que vous proposez-vous personnellement pour que la RDC soit au rendez-vous des EMD sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015, même si on ne va pas vraiment les atteindre, mais ne fût-ce que aider à des avancements ou à des avancées très significatives?
Oui, JR. Pour moi, d'abord, nous devons changer la structure mentale des Congolais. Je vais vous dire une chose. En 2005, j'étais en France. Un Français m'a dit, vous les Congolais, vous voulez venir en France. Mais si on échangeait le pays, nous les Français, nous venons au Congo, et vous, vous venez en France. Après 10 ans, vous allez encore envier votre Congo. Donc, il faut d'abord changer la structure mentale des Congolais, de nos dirigeants et de nous-mêmes. Parce que le Congo, c'est un pays extrêmement riche. On dit scandale géologique, scandale minier, mais cette richesse du Congo ne profite pas aux Congolais. C'est pour cela, nous devons changer cette structure mentale, entre autres, éviter les contrats léonins. Vous savez, le Congo est riche. Les multinationales exploitent nos minerais. Mais et cela nous profite. Il y a des contrats léonins qui ne profitent pas aux Congolais. Ils profitent aux multinationales, ils profitent à une classe des Congolais. Donc, changer la structure mentale, éviter les contrats léonins, et puis aussi, améliorer la balance des paiements. C'est-à-dire, le Congo doit exporter plus et importer moins. Quand nous exportons plus, nous allons faire entrer beaucoup de devises et nous aurons un pays fort, un budget fort par rapport au budget de misère que nous avons maintenant. Voilà mon intervention.
Merci Rifin. Là, vous nous renvoyez à ce paradoxe. Hein. Pays riche, mais pays, mais population pauvre. Mais je crois que cet avis est partagé par bon nombre d'observateurs. Et aujourd'hui, le Congo-Kinshasa fait partie des pays les moins avancés, les plus pauvres de la Terre. Donc, votre souhait, c'est que on évite des contrats léonais qui nous plongent encore dans cette pauvreté qui n'a pas de nom. Merci Rifin. Billy Honoré, vous êtes à Baraka. Bonjour Billy. Voilà, Billy.
Oui, bonjour papa.
Voilà Billy, comment réagissez-vous?
Oui, d'abord je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi ainsi qu'à l'invité.
Voilà, allez-y.
Je suis tellement content avec ce sujet d'aujourd'hui. Ce que je peux dire d'abord, il faut que notre gouvernement prenne d'abord sa responsabilité. Moi, je suis dans un village où on peut dire aujourd'hui, ça peut arriver à être une cité, ça s'appelle Baraka. Vous pouvez voir là, on récolte sans des choses quelque part, il y a des agricultures. Mais les routes là des desserts agricoles, ça n'existe pas. Avec cela aussi, au lieu que notre gouvernement prenne aussi des mesures pour essayer de gérer cette situation, en tant que gouvernement, mais le gouvernement ne prenne pas sa responsabilité. Ça, c'est un. Deuxième chose, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le Congo est riche, mais sa population est tellement pauvre. Pourquoi je dis cela? L'argent que le gouvernement reçoit, on n'utilise pas normalement. Il y a manque de suivi. S'il y a manque de suivi maintenant, le gouvernement manque comment faire entrer l'argent aux caisses de l'État, alors que tout cet argent entre dans les poches des individus seulement. Maintenant, pourquoi dire que la population doit être améliorée, donc le mode de vie de la population, alors que ce sont les autorités qui prennent de l'argent et mettent dans leurs poches, alors que la population continue à souffrir. Ça aussi, ça me dérange et ça m'inquiète. C'est pour cela que je peux dire à notre gouvernement de prendre ses responsabilités. D'abord, de savoir comment nous pouvons gérer notre population en mettant le suivi avant tout. C'est ce qui va faire que tout argent que les gens reçoivent ou que le gouvernement reçoive doit être entré dans les caisses de l'État et ça va aussi travailler et la population ne serait pas donc en pauvreté. Pour mettre fin maintenant à mes propos, j'ai dit et j'ai retiré que le gouvernement, notre gouvernement, a mis seulement l'accent sur les minerais et il a oublié l'agriculture. Alors qu'aujourd'hui, l'agriculture est la base de toutes choses. Si l'Amérique est appelée la grande puissance, on fait de l'agriculture. Il faut qu'il nous amène des tracteurs. Alors on nous a amené des tracteurs et le gouvernement même n'a pas fait le suivi de ce qu'il a envoyé sur la population. Vous voyez, notre gouvernement doit prendre la responsabilité pour qu'il puisse mettre fin à cette pauvreté. Je vous remercie.
Merci Billy. Nous retenons que vous encouragez, disons, l'investissement, un bon nombre d'investissements autour du secteur agricole, et réduire au fait des investissements au niveau du secteur minier, parce que plus on encourage, on fait la promotion donc des activités minières, plus on est en train de s'enfoncer, selon vous, Billy. Donc il faudrait encourager, être un peu regardant par rapport au secteur d'agriculture. Rachidi, vous êtes à Kindu, on va vous prendre et puis on va terminer cette deuxième série avec Jean-Pierre qui est à Isiro. Rachidi, bonjour.
Bonjour, je salue tout le monde de la radio Kapi, c'est bien mon Rachidi Juma Kalonda, j'appelle de Kindu.
Voilà, est-ce que vous partagez les avis de vos prédécesseurs?
Bon, moi, personnellement, j'ai articulé la solution sur deux points. Le premier point est celui ses problèmes mentaux pour sortir de ce drame, la pauvreté. Personnellement, c'est un problème de mobilisation populaire organisée par le gouvernement. Il faut que le gouvernement essaie un peu d'éduquer la masse, la population, pour chercher à se prendre en charge d'une façon générale. Donc, c'est un peu ça, comme Thomas Sankara a fait au niveau de Burkina Faso, ou des boisements des plantes dans son pays. Deuxième chose, pour réussir réellement, il fallait lutter contre l'impunité. Il faut que les licocos luttent contre l'impunité soit en marche. Parce que l'effort, cette impunité, c'est comme une sorte d'hémorragie. On peut avancer, mais les gens qui sont au-dessus de la loi créent des obstacles, ils détournent et rien ne se fait. Maintenant, ça décourage certaines personnes. Je prends l'exemple de notre province ici à Kindu. Et avec l'effort des chefs de l'État, ils ont envoyé beaucoup de tracteurs, quelques dizaines. Mais aujourd'hui, nous ne connaissons pas les résultats de ces tracteurs. Un verre d'arachide, c'est à peu près 250 francs.
Oui, donc Rachidi, s'il vous plaît. Donc vous voulez dire que ces tracteurs ne sont plus visibles. Donc vous ne percevez rien là. Donc ça a disparu dans la nature.
Bon. Le problème disparu ou pas, c'est parce que les gens n'étaient pas préparés. On ne connaît pas. Vous pouvez même appeler quelqu'un d'autre ici. Qui peut vous dire les résultats ou bien les produits qui viennent?
Oui, parce que si je comprends bien, aussi longtemps que ces tracteurs-là. Oui, si ces tracteurs-là ne seront pas opérationnels. Voilà, Rachidi, vous êtes avec nous. Voilà. Voilà, vous êtes avec nous, parce que là je disais, si ces tracteurs ne fonctionnent pas ou ne sont pas opérationnels, je crois que le résultat ne sera pas celui escompté. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un problème d'impunité, l'ICOCO doit travailler à ce niveau-là pour permettre à ce que on puisse réellement bien canaliser. Hein. Quand un don arrive quelque part, il faut que ça arrive à destination, au lieu qu'on puisse dévier la destination. Merci Rachidi. Jean-Pierre, vous êtes à Issiro, bonjour.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Jean-Pierre, est-ce que vous êtes d'accord que la situation de la pauvreté en RDC est très catastrophique, comme l'a dit Maître Bachaka, et qu'il faille actuellement redynamiser toutes les activités nationales, ne pas favoriser les unes au détriment des autres?
Oui, je suis des faits à vie. Mais du moins pour l'avis de certains auditeurs, je suis en train de remarquer qu'ils ont proposé l'agriculture et la santé, mais moi je suis en train de proposer plutôt l'agriculture et les infrastructures. Donc je voulais vous faire savoir, Pierrot, vous savez, dans les quinquennats passés, nous avions enregistré certains erreurs que notre gouvernement a fait dans le domaine de l'agriculture, en achetant par exemple les tracteurs qui sont venus pour embellir nos territoires avec les tracteurs, mais qui n'ont pas travaillé. Donc c'est un résultat des réalisations d'un projet sans consulter ou sans associer les acteurs du domaine ou la base. Donc je voulais proposer par exemple à notre gouvernement que s'il veut réaliser quelque chose dans un domaine, qu'il puisse consulter la base, les bénéficiaires et les intervenants dans ces domaines. Et là nous pouvons avoir des fruits escomptés. Par exemple, si on mettait dans chaque territoire des banques des financements agricoles, des banques qui pouvaient donner des matériels et les semences améliorées à la population, ça allait avoir de l'impact. Mais on les a apportés des tracteurs alors que cette population n'est même pas à mesure de s'acheter les carburants, il n'est même pas à mesure de faire de quoi. Cette population est à mesure de préparer des grandes étendues, mais il manque des intrants. Donc, je pense que la population, la RDC, notre gouvernement, doit arrêter ce système de s'asseoir dans leur bureau et d'inventer des théories et mettre en pratique. Ils doivent descendre en terrain et savoir quel est le besoin plutôt de la population pour qu'on puisse intervenir par rapport à ces besoins. Ces tracteurs-là, on doit les vendre aujourd'hui pour créer des banques agricoles dans chaque dans chaque territoire. Et là, nous aurons des impacts. C'est un peu ça ma proposition.
Voilà, Jean-Pierre, nous retenons que vous plaidez pour la promotion de la dynamique communautaire. Hein, et c'est cela qui pourrait être le point fort de la démocratie, d'ailleurs, participative, tout en mettant un accent sur l'aspect consultation de la population quand il faut réaliser un projet, et notamment dans le secteur agricole. Merci Jean-Pierre d'avoir appelé à Isiro. Marcel, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Voilà, Marcel, comment vous réagissez?
Oui, moi j'ai trois préoccupations. Oui, il faut que la gratuité de l'enseignement primaire soit réellement respectée. Deuxièmement, que le ministre de l'Agriculture puisse bien surveiller les tracteurs qu'il a remis aux agriculteurs. Et enfin, que le gouvernement congolais crée d'emplois et paie bien les agents et fonctionnaires de l'État avec un salaire signifiant.
Merci Marcel, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, vous êtes bel et bien sur Okapi et particulièrement dans cette émission Parole aux auditeurs. Vous pouvez également participer à ces débats en composant les 081 890 63 15. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos commentaires à pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs.
Japté Kasereka, qui est à Butembo, nous a écrit, il a dit, pour pallier à cette catastrophe, il faut la paix, car la paix est au centre de toute activité humaine, et il faut créer une stratégie d'appui pour la création d'emplois, puisque la majorité des Congolais, la majorité pratiquement des Congolais sont des chômeurs. Jérémy Amassisi, avant tout, nous devons interpeller notre conscience nationale en militant pour la paix sur toute l'étendue du pays, tout en élisant des vrais patriotes aux différents postes clés pour la gestion du pays, et ces derniers appuieront les efforts du peuple et pas croiser les bras. Donc c'est de cette façon-là que nous pourrons éradiquer la pauvreté ou carrément éliminer la pauvreté et ainsi atteindre les objectifs du millénaire. Wildor Wulonja Goma dit ceci: le gouvernement doit d'abord à tout prix chercher à instaurer la paix dans tous les territoires nationaux. En deuxième lieu, il doit chercher à bien organiser les secteurs économiques du pays tels que l'agriculture, les mines, le tourisme et l'environnement. En troisième et dernier lieu, il doit y avoir un comité de suivi qui sera chargé de contrôler tous ces secteurs évoqués ci haut. Voilà, nous sommes là avec vous, Francis Loka, vous êtes chargé de pauvreté à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au ministère du Plan. Alors, si rapidement on peut ramasser les interventions de tout à l'heure, donc des uns et des autres, hein, et puis, bon, quelle est la réponse qu'on va leur réserver aux uns et aux autres?
Ce qu'on entend des interventions des uns et des autres, je dirais la première des choses, votre auditeur a proposé la, changer la structure mentale des Congolais. En tout cas, moi je dirais qu'il faut qu'il y ait une révolution culturelle. Il faut qu'il y ait une révolution culturelle, que nous puissions changer notre façon de penser, de voir le développement. Nous sommes responsable de notre propre développement. Alors chacun à tous les niveaux où il se situe. Et là, si nous le faisons, nous allons progresser. Nous devons aussi lutter contre les antivaleurs. On vient de parler de l'impunité. On vient de parler de la corruption. On vient de parler des inégalités. Alors, ce sont ces antivaleurs qui décourage aussi les investissements. D'où la campagne d'assainir
le climat des affaires.
Le climat des affaires en RDC pour garantir la sécurité juridique. Puisqu'un investisseur ne peut jamais venir là où il n'y a pas de sécurité juridique. Oui, les aventuriers, oui. Ils viennent nombreux.
Oui, mais les uns ont proposé, la promotion des investissements autour du secteur, par exemple, agricole. Oui. Parce qu'on se rend compte que tous ces investisseurs qui arrivent, ils vont vers le minerai, vers le secteur minier.
Oui.
C'est comme si le pays fait la promotion de notre secteur minier, parce qu'on est riche par rapport aux minerais, et pourtant on dit nous sommes un pays riche, on a presque tout, on n'a pas que les minéraux, on a aussi un sol qui est très riche.
Effectivement, les investissements pour le moment sont orientés vers les secteurs miniers. Le gouvernement est en train de faire un effort pour pour diversifier et encourager les investissements dans le domaine
agricole.
L'agriculture. Et là, le grand défi du gouvernement, c'est de réhabiliter les routes de desserte agricole. Un investisseur peut bien venir à investir, je ne sais pas moi, à Kasongo, mais pour amener le produit de Kasongo à Kindu, heureusement qu'on a réhabilité la route, on fait 6 heures de route au lieu d'une semaine, avec une route ampitée. En piteux état, il ne pourra pas investir. C'est un effort que le gouvernement est en train de faire. Et dans l'ensemble, quand nous regardons les différents secteurs en RDC, il y a des problèmes. En fait, tous les secteurs sont prioritaires. On a des problèmes de santé, on a des problèmes d'agriculture, on a des problèmes d'éducation. On ne peut pas privilégier juste un secteur, mais dans la mesure des moyens disponibles, essayer d'apporter des solutions dans...
Alors, on prend juste Guillaume qui va placer justement en 30 secondes. Guillaume, bonjour.
Bonjour.
Oui, en 30 secondes, vous avez l'honneur de conclure cette émission. Nous parlons de la situation de la pauvreté en RDC. Que proposez-vous pour que la RDC soit au rendez-vous des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement sur la réduction de la pauvreté d'ici 2015?
Moi, je propose ceci.
Rapidement, en 30 secondes.
Je propose ceci. Que le gouvernement puisse prendre sa responsabilité. Qu'il ne puisse pas nous tromper avec beaucoup de discours ou qu'il ne se réalise pas. Même l'invité, ce qui parle là, il parle en vain. Il faut qu'il y ait la poursuite des choses. Il faut que les Congolais mangent bien. Il faut qu'un Congolais se réveille, il prend du thé, du pain. Ces bonnes choses-là, nous allons apprécier et pour que le développement soit réellement accompli par le gouvernement congolais et le gouvernement tata.
Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir appelé à Mayagi. Merci également à Francis Loka. Nous rappelons que vous êtes chargé de pauvreté à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au ministère du Plan. Et surtout, voilà, juste un dernier mot, là.
Oui, justement, c'est bien de dire que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités. Il appartient aussi à la population de prendre ses responsabilités, d'interpeller toutes les autorités, puisque la Constitution nous donne ce droit. Vous allez aider le gouvernement, que ce soit le gouvernement local, le gouvernement central, à remplir correctement sa mission.
Francis Loka, chargé des pauvretés à l'Observatoire de la pauvreté et des inégalités au ministère du Plan, merci d'avoir été des nôtres.
Allô? 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 Mais il ne répond pas.
Voilà, merci à Titi, à Piro et Sika Mimi Kindou pour la réalisation de cette émission présentée et coordonnée par J.R. Lungimbo. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Le 14e sommet de la francophonie s'est effectivement tenu à Kinshasa du 12 au 14 octobre 2012 dernier. Plusieurs chefs d'État y ont pris part. Ceci intéresse parole aux auditeurs qui en parlent demain. Donc la question au cœur du débat, que vous inspire les différents discours que nous avons suivis. Pour participer au débat, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net vos commentaires. A très bientôt et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.